Radio Campus, il est 17h, l'heure de retrouver les invités de notre deuxième partie d'émission qui s'appelle Quoi de neuf, hein, donc magazine culturel tous les mercredis entre 16h et 18h. Donc un invité que nous retrouvons régulièrement au travers de ses représentants, il s'agit de la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq, donc avec qui nous entretenons des liens solides et anciens maintenant. Bonjour donc à la personne qui représente ce lieu aujourd'hui. Et donc bien, l'idée c'est bien sûr de présenter cette personne qui vient aujourd'hui pour la première fois dans ce studio. Et donc, il va nous dire un petit peu qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors,
je m'appelle Nathalie Bréon. Je suis chargée depuis peu de la communication de la ferme d'en haut.
Voilà, donc cette ferme d'en haut a été restructurée pour être une maison folie à l'époque.
Tout à fait, 2004, en 2004,
hein,
oui.
Et restée donc active.
Tout
et
à fait.
Et propose, j'allais dire, de plus en plus des événements, des actions.
Concerts, théâtres, expositions.
Encore plus cette année même, on peut peut-être le dire, avec
on peut le dire,
la Rose d'Éon aussi,
tout
qui se
fait.
Décentralise parfois parce qu'elle ferme le lieu pour le restructurer, le rénover. Et donc là, vous accueillez parfois certains spectacles de la Rose d'Éon cette année. Hein.
Nos petits penchants, le mercredi 20 octobre et le 17 octobre.
C'est une excellente occasion d'ouvrir votre lieu à la Rose d'Éon. C'est la première fois ?
Je pense que c'est la première fois, oui.
D'accord. Et donc, l'occasion aussi pour des publics de se croiser.
Tout à fait.
Voilà. Donc, on peut peut-être rappeler où se situe la ferme d'en haut.
Alors, la ferme se situe dans le quartier du Bourg, à Villeneuve-d'Ascq, donc rue Jules Guesde.
Et donc, cette ferme-là, elle est ancienne.
Elle est ancienne.
Elle remonte à quelle époque, à peu près
Je ne sais pas.
Il y a 200 ans, au moins.
Peut-être, oui.
Certainement.
Oui,
oui. Donc, elle est restée dans une certaine tradition architecturale.
Elle a été refaite en 2004, lorsqu'elle est devenue ferme d'en haut.
Complètement, elle a été refaite.
Complètement, avec un ajout d'un atelier d'artiste.
D'accord.
Et l'ajout de la salle de spectacle.
D'accord. Donc la salle de spectacle, on peut dire en gros la jauge, c'est à peu près...
Alors, hier, on était 40 pour une conférence sur l'Islande.
Mmh.
Et samedi soir, on peut aller jusqu'à 200 pour le concert de Mehmet Aslam.
Bon, j'imagine tout le monde... passe sanitaire, etc.
Tout à fait,
Même dans la cour, tout ça
Même dans la cour, dès qu'on rentre dans l'enceinte de la ferme, oui.
Bon, donc c'est comme ça encore cette année, il faudra s'y faire, je pense, encore un petit moment. Donc, cette année, donc la rentrée s'est déjà faite, j'imagine,
tout à fait.
Déjà. Et puis, on va parler d'une exposition qui a déjà été vernie, entre guillemets, on peut dire ça, et qui va se poursuivre avec donc une personne qu'on connaît bien à Radio Campus, parce que j'ai eu l'occasion de l'accueillir assez souvent. Elle s'appelle Sophie Brown, elle est chargée du patrimoine scientifique à l'Université de Lille. Bonjour Sophie.
Bonjour René.
Alors, heureux de te retrouver ici.
Bah, moi également.
Ça fait drôle.
Depuis quelques temps.
C'est vrai que on a eu pas mal de fermetures les uns et les autres, et là, bon, ça semble assez bien reparti pour ces présentations, notamment d'expositions. Donc, il faut rappeler que l'Université de Lille, qui regroupe l'île de Létroit, pour résumer, a un vrai patrimoine scientifique qui date déjà de la création de l'université.
Oui, c'est ça, la création des facultés,
des sciences,
puis ensuite cette réunion des facultés à la fin du 19e en Université de Lille, déjà à l'époque.
Donc même à Lille 3, il y avait des choses intéressantes aussi. Tout ça, maintenant, ça fait partie du même patrimoine de la même université.
Voilà, c'est ça, avec des patrimoines, plutôt des collections scientifiques d'enseignement, d'autres de recherche, ou alors des collections qu'on dit plus historiques parce que d'instruments obsolètes qu'on n'utilise plus.
Alors, j'imagine que dans cet ensemble-là, on peut retrouver Pasteur, des gens comme ça.
Oui, tout à fait. Pasteur ayant été le premier doyen de la faculté des sciences de Lille, on a encore quelques objets dont on dit qu'il s'est servi. Et également, plus tardivement, il y a eu la réalisation aussi d'un buste par le sculpteur Belmondo.
Donc j'imagine que tous ces objets préservés, conservés et remis en scène parfois, on verra comment, sont des objets qui deviennent précieux au fil du temps.
Voilà, la plupart du temps, ce sont des objets uniques. Bon, après, il peut y avoir effectivement des séries, et on verra avec le docteur Ozu que lui a créé des séries de modèles. mais parfois il y a des objets dont on ne retrouve plus qu'un seul exemplaire. Et donc on s'attelle à conserver, à documenter du mieux qu'on peut.
Voilà, donc un patrimoine préservé et valorisé au travers des différentes expositions. Il y en a eu régulièrement, hein, tous les ans il y en a au moins une.
Je sais pas voilà, si... alors l'année dernière, bon, il n'y en a pas eu. Enfin si, il y a eu le botaniste et ses modèles avant la fermeture des lieux. Et par contre, entre-temps, on a profité du confinement pour faire paraître un ouvrage sur les collections de l'université. Donc ça s'appelle « Le cabinet des merveilles, objet de patrimoine de l'université de Lille ». Et ça a été publié aux éditions Invénites et paru en septembre 2020.
Voilà, donc
Et donc là, on reprend par contre l'activité par l'exposition au zoo à la ferme d'Ambre.
Très bien. Alors, on va présenter cette personne, peut-être même ce personnage d'Ozu. Ozu, A-U-Z-O-U.
X.
X. Donc, qui était-il ?
Alors, on l'appelle le docteur Ozu parce que, donc, à l'origine, quand il a créé ses modèles, il était étudiant en médecine. Donc, petit à petit, il est devenu docteur. Et lors de ses études de médecine, donc, bon, il est originaire de Normandie, mais bien sûr, il va faire ses études à Paris. On est dans les années 1810-1820. Et bon, la légende raconte qu'il n'aimait pas la dissection des corps. C'est plutôt qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de corps disponibles pour la dissection et donc pour l'étude de l'anatomie humaine. Et donc, il va avoir l'idée et la patience et le courage de créer des modèles en papier mâché. Donc, il va beaucoup s'intéresser à la fabrique de ce qu'on appelle le papier mâché, hein, qui est un mélange de pâte à papier, de blanc de meudon, de filasse et d'autres matériaux qu'il va confectionner en fait à partir du fait qu'en fait il entre au contact de marionnettistes, de fabricants de jouets, et petit à petit il va créer donc un matériau assez léger et facile à modeler pour créer des modèles d'anatomie dans le but d'avoir toujours à disposition en fait des parties tout ou partie d'un corps humain pour l'étude en médecine, pour que les étudiants puissent identifier chaque partie anatomique du corps.
J'imagine que c'était une sorte de petite révolution dans le milieu scientifique.
Oui, alors il existait, c'est vrai, déjà des modèles, mais plutôt en cire ou en plâtre ou en d'autres matériaux, mais qui ne se démontaient pas. Et là, la spécificité, en plus de Ozu, ça va être qu'il va joindre différentes... partie pour créer un modèle anatomique, en fait, il va y avoir plusieurs composants qu'il va relier par des crochets et d'autres choses qui permettent de les ouvrir et de les démonter, et de regarder pas que l'extérieur du modèle anatomique, mais de rentrer un petit peu comme si on disséquait le modèle à l'intérieur.
Donc ces modèles, hein, ces corps aussi parfois, soit animaux, soit humains, reconstitués et démontables. Ça avait un aspect évidemment pratique. Est-ce que c'était répandu uniquement dans l'université de sciences, la faculté de sciences, ou est-ce que ça a été ensuite repris dans l'ensemble des universités de France, voire même de l'étranger ?
Donc là, Ozu, c'est à partir de 1825 qu'il va être reconnu pour son modèle d'écorché humain complet, de 1,80 m, donc grandeur nature, et il va être reconnu par l'Académie de médecine de Paris et par l'Académie des sciences de Paris, ce qui va lui permettre d'avoir une aura et une reconnaissance dans le milieu des scientifiques. Et à partir de là, il va créer, voyant l'intérêt pour ces modèles, il va en créer d'autres et surtout créer une usine en Normandie, dans son village natal. Et donc à partir de cette usine, il va y avoir des séries de modèles qui vont être créés et vendus. Et donc là, on va en retrouver partout en France, dans les écoles, dans les facultés, universités, et aussi à l'étranger.
Moi, j'en ai vu dans des écoles, effectivement, il y a 40, 50 ans, hein,
voilà.
Même plus.
Peut-être. Et c'est toujours, oui, il y a 40, 50 ans, et même aujourd'hui, on sait que ce sont des modèles parfois encore utilisés, parce que voilà, ce qui est présenté est toujours d'actualité et utilisable en enseignement.
Voilà. Donc, on peut penser que les étudiants actuels, pourquoi pas en médecine ou en sciences, ou voilà, pourront inventer des nouvelles formes utiles, pratiques pour la recherche.
Bah, pourquoi pas ? En tout cas, on sait que aujourd'hui, c'est peut-être le numérique qui est le plus utilisé, mais pourquoi pas un jour revenir à ces modèles 3D, parce qu'effectivement, la 3D est importante quand même pour mettre en espace le corps, que ce soit humain, animal, végétal, et comprendre l'anatomie, la morphologie, et aller plus loin peut-être sur la recherche ou ce qu'on peut voir et connaître aujourd'hui. On sait aussi que la nomenclature a évolué hein, depuis les modèles aux os, donc ce qu'on retrouve dans les catalogues de l'époque. On sait qu'aujourd'hui, ce ne sont pas toujours les mêmes termes scientifiques, mais en tout cas, le modèle en tant que tel reste utilisable.
Donc, beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins ont été formés il y a quelques générations avec ces modèles. Grâce à ces modèles, ils peuvent ensuite exercer leur art, leur métier.
Donc, en tout cas, ils peuvent partager et transmettre aussi, grâce à ces modèles, leur savoir.
Donc, ces modèles qui sont à Lille, il y en a beaucoup ?
Oui, on en a quand même quelques-uns. Alors, à Lille, ça peut être à l'université, donc à la faculté des sciences et technologies, et notamment au département biologie.
Oui.
À la faculté de pharmacie de Lille, à la faculté de médecine. Et après, dans la métropole, on a aussi là le concours des lycées Gambetta à Tourcoing et Federbe à Lille, qui nous ont prêté des objets qu'on ne retrouvait pas forcément d'ailleurs dans nos collections. Donc chacun, il y a des modèles qu'on retrouve, comme l'œil humain qui est très répandu. Puis il y en a d'autres, par exemple, je pense au modèle de fleurs du lycée Gambetta. Nous n'avons pas de modèle de ce fabricant aux os. Nous avons, l'université à l'époque a acquis une collection d'un autre fabricant, donc on n'avait pas cette représentation des fleurs, par exemple.
Voilà, donc à la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq, qu'est-ce qu'on a installé et est-ce qu'il y a un fil conducteur entre ce qui est présenté ?
Alors, on démarre bien sûr par cette anatomie humaine, puisque c'est le point de départ de la reconnaissance et tout le travail d'Ozu. Et ensuite, on chemine en passant à tous ces modèles de zoologie, comme la tête de la vipère, le hanneton, l'escargot, le dindon ou le cheval. Et ensuite, on passe aussi à la médecine donc vétérinaire avec ce cheval et à tout ce qui est l'anatomie comparée, développée par, en tout cas répandue par Cuvier, par exemple, où là, on peut comparer différents cœurs de différents animaux marins, là, en l'occurrence, ou des systèmes respiratoires, etc. Et ensuite, il y a ce passage à la botanique, puisqu'en fait, voilà, Ozu va développer petit à petit sa gamme et s'élargir un petit peu à tous les domaines, sciences médicales, et puis vétérinaires, et ensuite sciences naturelles au sens large.
Est-ce qu'il y a des maisons qui ont pris le relais de ces productions-là ?
Alors, Ozu donc, va s'occuper de son entreprise jusqu'à sa disparition en 1880, et ça va être un de ses neveux qui va reprendre l'établissement. Et ensuite, c'est également quelqu'un de proche qui va reprendre. Donc, il va y avoir une succession. Puis, dans les années 20, un rachat par Henri Barral, qui rachète aussi d'autres maisons de fabricants connus à l'époque. Et donc, en fait, l'entreprise va perdurer jusqu'à sa fermeture définitive en 2002. Ah oui. On va dire qu'il va y avoir une production jusqu'au début des années 1990, avec des évolutions, parfois des partis pris de changement de matériaux. Mais en tout cas, il y a des modèles qui vont perdurer assez longtemps.
Voilà. Donc, cette exposition à la ferme d'en haut, hein, elle a un nom précis ou...
Alors, on l'a appelé les incroyables modèles du docteur Ozu. Observer, comprendre et enseigner la nature, parce que c'est vraiment ça l'objet de ces pièces, qui au départ sont des pièces d'enseignement et qui tendent à devenir des pièces un petit peu plus de musée, puisqu'en effet, avec la manipulation de ces objets et le fait qu'ils ne sont plus produits, ben, ils deviennent pour certains de plus en plus rares.
Donc cette exposition, elle a déjà démarré pour le public. Comment réagissent les gens face à ces, on va dire, œuvres d'une
certaine nous manière. Avons eu pour le moment des bons retours. Hein. Déjà, on a fait un très beau vernissage et là, je remercie vraiment tous les contributeurs. Donc, on avait aussi la présence de nos collègues de Madrid parce que je ne l'ai pas encore précisé, mais c'est parti, ce projet sur Ozu est parti aussi d'un lien avec l'Université de Madrid, l'Université Complutense, qui en fait a une spécialité à la Faculté des Beaux-Arts qui est la restauration de modèles. Et avec un projet Erasmus+, une de leurs étudiantes était venue restaurer deux de nos modèles, donc la tête de la vipère et l'œil, le modèle de l'œil.
Voilà, une belle collaboration internationale.
Voilà. Hein. Et depuis, en tout cas, on a des bons retours du public sur cette présentation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la ferme d'en haut touche aussi un public de scolaires qui, là, va pouvoir observer, découvrir les sciences naturelles un peu autrement avec chaque enseignant qui voudra bien ramener sa classe pour découvrir ces modèles.
Voilà, donc l'exposition est à voir jusque quand ?
C'est jusqu'au 12 décembre.
Bon.
Et alors, elle est ouverte de 15h à 19h tous les week-ends. Et nous avons, pour la communauté universitaire et nos partenaires, réservé les mardis après-midi et jeudi matin. Donc, il suffit de téléphoner à la ferme d'en haut et, si possible, de constituer un groupe pour réserver et pouvoir accéder à l'exposition en semaine.
Est-ce qu'il y a des animations particulières sur cette période ?
La ferme d'en haut, oui, met en place des choses. Et puis, on avait surtout ce lien avec le collectif Artemus qui s'est emparé aussi. Enfin, il créait déjà des choses dans cet esprit. Mais là, il y avait un lien sur les mains et l'anatomie humaine qu'ils ont créé. Enfin, ils en parleront mieux que moi.
Ben voilà, merci Sophie Braun. Donc, on va retrouver le collectif Artemus après peut-être un petit morceau de musique pour dire d'aérer un petit peu. Et on discute de tout cela. Merci.
Navigue dans le courant en loose day. Malgré le feu, une brise s'échappe. C'est le même schéma qu'on achève. Normal qu'un je t'aime nous échappe. Loin de la capitale, le froid sous les côtes, le nord rouge est grandi. Le ciel c'était l'horizon, les hommes sont restés des bandits. Paris c'est grand, je m'y perds. Nouveau riche, grosse caisse sans m'y perdre. Sur FIFA je mets des 4-0, jamais je perds. Une bonne mélo, un bout de haine, histoire de traverser l'hémisphère. Ça ferait du bien de pouvoir voir mon père arrêter de se taire. C'est comme ça chez moi, chemin trace. Et fais gaffe si tu t'en écartes, y'a plus rude que la galère, gamme et quand même la vie met les droites. Wow, oh lol, les épées se brandissent, j'suis pas Gandhi. Hein, j'connais le vice, j'ai grandi. Wow, j'ai le mode de vie d'apprendre. De ma peine, moi j'ai mon frigo vide. Et j'regarde des Marvel, j'bouge pas comme figurine. La vie est sur mes os, le ice, ma chrysalide. Y'a dis-moi ce qu'il ferait pas pour une vie d'artiste. Évidemment, je garde espoir, c'est dans les pires moments que la vie dessine. Ma lieu 18 ans, je rappe comme un grand, là j'aperçois les signes. Terminator sur la poche, je la connais, c'est ma sœur à Connor. Et connard, moi je reste pas que je veux multicolore. Le rap, j'écoute avec le cœur, l'insolence de l'époque des autoproclamés. J'respecte R, jamais, mais je suis pas de ces fous. T'as aimé John, t'as vu le futur quand tu m'as croisé dans ta UMC, n'aie pas peur. Ici, je vais kicker sans un. T'as des flammes qui apparaissent, n'a compris poteau, pas de paresse. Les 10 dans le club. Pour que misère disparaisse, je résume, je suis juste un cum qui a rien à perdre. Avec ma bande assassin, on va tout vous prendre. Avec le temps, bien sûr, les rêves se perdent. Tomioka, deuxième mouvement, des coupes nettes et tendres. Gros, je reste vrai. Chaque jour grandit l'équipage. PPK sur l'oriflamme, équipé et sous Captain Page. On veut le premier, pas le second plus. On veut prendre les pulsions plus. Vie est sur mes os, le ice, ma chrysalide. Y'a dis-moi ce qu'il ferait pas pour une vie d'artiste.
Voilà, c'était, je sais pas si on peut dire des gangsters. Enfin, c'est Peter Nolan avec Price Freestyle Rap sur Radio Campus 106 FM. Toujours extrait de cette compilation Minerai numéro 4. On va passer maintenant à une séquence de présentation d'une œuvre, une œuvre artistique. Et donc cette œuvre, elle est produite, réalisée, conçue au départ par Simon et Mélie. Simon et Mélie, c'est vraiment quelque chose qui sonne bien, Simon et Mélie. Vous auriez voulu le faire exprès que... Voilà, bravo pour cette complicité, pardon.
Merci beaucoup.
Ouais, ça sonne bien, il faudrait faire un groupe. Hein.
C'est déjà fait, du coup, ouais, à travers le duo qu'on a créé.
Voilà, donc un duo artistique, peut-être qu'on peut... C'est vos vrais noms ?
C'est nos vrais
noms.
Oui,
quand même. J'imaginais que vous ayez pris ça pour créer un univers qui se rattache à votre œuvre ou à vos œuvres. Alors, on va présenter un petit peu, qui veut démarrer, sur le concept général de vos projets artistiques.
Eh bien, nous, du coup, on a créé le collectif Artemus il y a 3 ans maintenant. La volonté première, c'était déjà de travailler ensemble. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et du coup, on avait cette volonté de faire des choses ensemble depuis longtemps. Et donc, du coup, on a choisi comme matériau le bois de cagette, qui était un moyen pour nous de revaloriser un matériau qui était voué à la destruction, et nous permettait aussi de faire des œuvres assez monumentales, de par la richesse du matériau, du bois. Et voilà.
Donc, ce projet, vous êtes associé depuis longtemps sur ce genre de réalisation ?
Ça fait 3 ans hein, qu'on s'est lancé dans la sculpture. Au départ, on a quand même nos deux univers disparates. Hein. Mmh. On a chacun. Moi, je suis plus dans la peinture. Simon, lui, fait de la taille de bois en sculpture. Mmh. Et puis cette idée de collectif, voilà, c'était pouvoir réunir nos deux disciplines. Parce qu'en plus de ça, on peut associer la peinture aussi aux sculptures qu'on fait en bois de cagette, notamment à travers des ateliers.
Mmh. On peut aller assez loin dans la précision, parce que là, en fait, vous réalisez une main. C'est drôle parce que cette main-là, je vous montrerai une photo un jour d'une main qui ressemble à ça dans un parc en Chine, avec une immense main, etc. Mais je veux dire que cette main-là, elle paraît très réaliste d'une certaine manière. Et tout ça avec du bois de cagette, on a un peu de mal à admettre qu'on arrive à cette précision.
Ben, en fait, c'est au bout de nos 3 ans de pratique qu'on a réussi à affiner notre technique. Mmh. Au départ, nos sculptures étaient beaucoup plus brutes. Et puis, on a réussi à solutionner ce problème par le fait déjà de tremper le bois dans l'eau, qui nous permet d'avoir des courbes plus gracieuses. Et puis, après, c'est à force de travail, aussi de dessin, on arrive à construire, surtout en anatomie, comme ça, surtout pour la main, qui est quand même une partie du corps assez complexe. Mm-hmm. C'est d'abord de passer d'un dessin en 2 dimensions à une élévation en 3 dimensions. Ça nécessite, évidemment, un peu de réflexion. Et puis, c'est ça qui est chouette aussi dans un duo, c'est que l'erreur fait rebondir l'autre personne du duo, et du coup, on arrive à améliorer notre technique.
Donc, cette main a l'air très grande à voir comme ça.
Oui, on est sur du plus de 2 mètres.
Ouais, quand même.
2 mètres 40, je pense. Voilà.
Et il y a une certaine élégance, voire une ligne. Enfin, ce n'est pas les lignes de la main, c'est la main qui a une ligne. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est la cagette. Hein, les fines lames de cagette amènent aussi une dynamique et une ligne. On peut retrouver, hein, soit c'est les vraies lignes de la main, ou c'est apporter juste un graphisme et une finesse, justement.
Voilà, donc pour nous, quand on dit bois de cagette, etc., on n'a pas à l'esprit la finesse que je vois là. Je veux dire, c'est très, très fin, très subtil, d'une certaine manière.
Oui, puis on a découvert un peu sur le tas aussi ce matériau. Mmh. Comme disait Simon, au départ, c'était très brut. On utilisait les lattes de cagette telles quelles, comme elles étaient. Et puis, au fur et à mesure, on a voulu affiner. Donc, on a fini par casser, de plus en plus casser les lames et arriver justement à cette finesse-là.
Donc, dans vos autres œuvres, j'imagine que vous en avez dans d'autres endroits. Mmh. Ce sont toujours les mêmes types d'œuvres ou vous faites
La technique reste la même. Après, les sujets changent en fonction des projets qui nous sont proposés. Mmh. On a fait beaucoup de sculptures animalières parce qu'on travaille assez régulièrement avec un jeune public et on trouvait que c'était une bonne manière d'amener notre technique et notre volonté d'apprendre aussi, parce qu'on a aussi cette démarche-là d'apprendre et de montrer aux enfants principalement à réaliser du volume en grande dimension. Après, les sujets sont assez variables. Là, on part dans d'autres directions en ce moment. C'est au gré de nos inspirations.
Mmh. Donc, c'est très réaliste d'une certaine manière, mais une élégance, je veux dire, qui fait un peu, quelque part, un peu appel à l'imaginaire aussi.
Oui, en plus, on aime la notion de laisser au spectateur une libre interprétation. On essaie toujours de garder une porte ouverte pour que les gens puissent s'approprier aussi nos œuvres.
Mmh. Au départ, vous avez des formations en beaux-arts, en quoi ?
Oui, du coup, on est passé par Saint-Luc Tournai.
Oui.
Et puis, et les beaux-arts aussi.
Mmh.
Du coup, bon, après, on a pris chacun nos chemins pour suivre les disciplines qui nous plaisaient. Mais on a eu de grosses formations artistiques en Belgique.
Est-ce que vous considérez que l'art, on va dire plastique, là, d'une certaine manière, hein, un peu réaliste, on n'est pas dans le conceptuel actuel qu'on voit dans certaines écoles. On est dans l'art, vite compréhensible d'une certaine manière pour le public. On peut l'appréhender facilement, votre œuvre. Hein.
Oui.
Mmh, oui, oui.
C'est une volonté aussi de notre part de faire appel à l'émotion du public. On ne cherche pas forcément un concept, mais plutôt que l'émotion soit le plus immédiate possible.
Mmh. Oui, il faut que ça parle, ça puisse parler à tout le monde en tout cas, et que ça puisse se rendre accessible à tous.
Voilà. Donc là, on est sur une œuvre assez grande. J'imagine qu'il faut trouver des espaces à la hauteur.
Oui, oui, ça c'est sûr qu'il faut. Nous, on génère ça, on essaie de pouvoir avoir ce genre d'espace. On préfère aussi travailler en extérieur. Mm-hmm. Le bois s'y prête beaucoup plus dans la nature. Ça en jette beaucoup plus. On n'a pas forcément toujours l'espace. À chaque fois, il faut voir en fonction des projets qu'on nous propose. Mais on est toujours en quête, en tout cas, de grands espaces.
Donc, ce bois, une fois qu'il est terminé, en termes de réalisation, est-ce que vous le traitez après ?
Non, c'est une volonté aussi de notre part, c'est qu'on ne traite pas le bois en extérieur. Et nos sculptures sont vouées à une destruction naturelle. Mm-hmm. Donc, on estime entre, peut-être 3, 5 ans, peut-être un peu plus, en fonction de là où elles sont installées. Et la nature fait le reste, elles se détruisent naturellement.
Donc ce sont des œuvres écologiques dans l'esprit.
Oui, écologiques dans l'idée qu'il y a du recyclage, et puis éphémères, parce qu'elles finissent par disparaître. Oui.
Voilà, elles se réintègrent à la terre.
On peut dire ça.
Donc je trouve que c'est un beau projet, moi ça m'a un peu ému quand même, quand j'ai vu cet aspect un peu expressionniste en même temps de cette main. Et savoir que le matériau a permis, enfin, c'est pas banal quand même d'utiliser ce type de matériau. Et en plus, avec un souci de travailler avec des choses qui sont d'une certaine banalité au départ pour les transfigurer.
C'est ça, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que le matériau, c'était vraiment un matériau lambda qui nous est arrivé, on va dire, un peu par hasard, et puis on a réussi à profiter justement de cette banalité du matériau pour en faire quelque chose. Mmh. Et par sa souplesse et sa rigidité, on a réussi à pouvoir le transformer.
Mmh. Est-ce que c'est à portée de main de jeunes, de faire ça, d'enfants, pourquoi pas? Il y a des ateliers qui peuvent être réalisés autour de ça?
Oui, tout à fait. Oui, oui. On fait beaucoup d'ateliers avec tout type de public, jeunes et moins jeunes. Mmh. Et à partir d'un certain âge, oui, on peut faire de la construction. En tout cas, on essaie de proposer des ateliers à toutes les tranches d'âge possibles et de faire participer tout le monde. L'idée, c'est que la réalisation se fasse en groupe et qu'on puisse aussi induire ce travail d'équipe qui nous est, enfin, auquel on est attaché, et aussi pouvoir ne pas se créer de frontières. On veut travailler avec tout le monde, tous les publics possibles.
Donc, vous aviez dit Saint-Luc, c'est un petit peu votre origine de formation, c'est ça ?
C'est ça, oui, tout à fait.
Ensuite, vous êtes resté dans la région ?
Moi, je suis resté par ici, oui. Après, Simon, du coup, il est parti sur la région bruxelloise.
Ouais. Et maintenant, vous restez dans cette euro-région, on va dire, pour travailler.
Oui, du coup, là, on est installé à Roubaix. Mmh. On a notre atelier à Roubaix. Mmh. Et alors, on travaille dans la région, mais on est amené à se déplacer aussi de la Melle. Du coup, on va aussi dans le Valenciennois et puis dans le Cambrésis aussi.
Mmh. Alors, c'est vrai que dans le bassin de la Sambre, la Vénois aussi, il y a vraiment des endroits naturels assez bien préservés, des vieilles fermes, des endroits où il serait intéressant de créer aussi avec des habitants.
Bien sûr.
Ah oui, tout à fait. Hein.
Donc vous êtes à la disposition des bassins de vie qui pourraient vous demander d'irriguer un territoire.
Oui, tout à fait. Après, on peut recevoir des projets qui nous intéressent. Si ça nous permet aussi de nous déplacer, on en est autant plus heureux.
D'accord. Donc régulièrement, dans la région, il y a des expositions, bien sûr. Il y a aussi des lieux, par exemple, le salon d'art Art Up, par exemple. Hein. Est-ce que c'est des lieux qui vous intéressent ?
Alors nous, on respecte beaucoup ce type de salon, mais on aime aussi créer la surprise. Alors là, du coup, avec la ferme d'eau, c'était très, très chouette parce que le lieu est vraiment magnifique et se prêtait à notre intervention et à nos créations. Mm-hmm. Mais on aime bien travailler avec d'autres types de circuits aussi, de présenter notre travail dans d'autres types d'endroits. On cherche des épiceries solidaires. Ce type de lieu nous intéresse. Les librairies. On aime bien ce côté décalé aussi, de sortir aussi des sentiers battus, de l'art tout tracé. Voilà.
Donc là, au bout de plus de 3 ans de création, on va dire, hein, est-ce que vous vivez de votre art? Est-ce que ça se passe bien pour vous?
Ça commence à se passer de mieux en mieux, oui.
Ça se met en place. Bon.
En tout cas, donc, c'est l'occasion-là de présenter à la fois votre œuvre et peut-être votre carte de visite.
Chaque occasion est bonne à prendre, de toute
voilà,
manière.
Tout à fait. En tout cas, je vous remercie pour donc cette belle présentation, ce travail que j'engage, enfin, auquel j'engage chacun de se rendre compte par lui-même de l'évocation, donc de l'inspiration que cette œuvre peut faire naître. Donc on va rappeler que cette œuvre est actuellement tout le temps de l'exposition, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui.
On va rappeler les dates, hein, si vous voulez.
C'est bien. Jusqu'au 12 décembre.
Oui. Est-ce qu'il y a un finissage d'exposition? Comment ça se prévoit?
Pour l'instant, c'est
non,
pas prévu.
Bon, on peut l'imaginer peut-être d'ici là. Hein.
Je voulais préciser qu'il y a 3 superbes mains dans la cour de la ferme.
Oui.
Voilà.
Donc celle que j'ai, c'est une des mains.
C'est ça.
Hein.
Exactement.
Il y en a 3.
Donc il pourrait y avoir une paire, mais pourquoi 3 alors?
Les impaires, c'est mieux.
C'est mieux les impaires, très bien. Donc 3, voilà. Donc il y a Simon et Mélie, donc du collectif Artimuse. Est-ce que vous serez présent parfois devant vos œuvres? Est-ce que vous avez des rendez-vous avec le public?
Eh bien, se rendre sur place, c'est compliqué parce qu'on est sur d'autres projets actuellement.
Oui.
Mais après, on reste joignable si des gens veulent nous rencontrer. On est tout à fait disposé à les recevoir ou à notre atelier ou à se rendre directement.
Donc votre atelier, il est à Roubaix, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Il y a un endroit, on peut vous contacter là-bas. Comment ça se passe?
Alors là-bas, c'est un lieu privé parce que c'est mon lieu
d'accord,
de vie aussi.
Ouais.
Mais du coup, on est joignable sur les réseaux sociaux. On est facilement trouvable.
Très bien. Et donc, l'occasion de découvrir vos œuvres et puis de correspondre avec vous.
C'est bien sûr, tout à fait, ouais. Avec plaisir.
Bien, merci pour votre visite. Et puis,
merci à vous.
Continuez. Je trouve que c'est vraiment une belle créativité et puis un courant un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Je pense que vous allez creuser votre sillon. Là.
J'espère.
Merci beaucoup, merci Simon et
merci.
Mélie.
Merci beaucoup.
Encore une fois. Voilà, donc Nathalie Bréon est restée avec nous. Donc, la maison Folie de Villeneuve-d'Ascq a de nombreuses activités. Peut-être qu'on peut donner quelques rendez-vous pour les prochaines semaines, mois, etc.
Alors, vendredi, nous avons un improfight en salle de spectacle à 20h30. Samedi, nous avons le groove des familles qui accueille Mehmet Aslam, donc un concert. Et ensuite, des ateliers, des spectacles jeunes publics, voilà, nos ouragans de la compagnie Canta, des concerts de l'Orchestre universitaire de Lille, une journée Halloween le 31 octobre, et des séries découvertes la prochaine sur la route 66.
Voilà, bah, tout un beau programme. Alors Facebook, on peut y aller, hein. Je pense que vous avez des événements qui sont indiqués.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dessus en ce moment?
Alors, bah, j'ai présenté la semaine.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Je voulais préciser que l'exposition est à entrée libre, donc c'est gratuit.
Voilà, et passe obligatoire. Entrée libre et passe obligatoire.
Oui, c'est ça.
On a bien compris. Donc, je ne sais pas si vous nous conseillez un groupe de musique, par exemple, ce serait qui?
Ah, ça serait samedi soir, Mehmet Aslan.
Bon, on va essayer ça tout à l'heure pour la fin de cette émission. Hein.
Oui.
Et puis là, on va vous souhaiter une très belle soirée. Rentrez bien chez vous, c'est pas très loin pour vous. Peut-être on va redonner la parole à Sophie Braun, donc chargée du patrimoine scientifique à l'Université de Lille.
Oui, et en plus donc de cette programmation, nous avons aussi mis en place des conférences liées à l'exposition au zoo. Donc certaines ici, sur la cité scientifique et l'espace culture, et d'autres à la ferme d'en haut. Et donc la prochaine, c'est ce jeudi, chez nous, à 18h, avec Gilles Denis, historien des sciences, qui va nous parler de la mise en perspective scientifique et médicale de l'anatomie clastique de Louis Ozou. Alors clastique, c'est le terme inventé par Ozou pour dire démontable, pour démonter. Et donc, c'est vrai que sinon, je voulais rajouter que la ferme d'en haut a bien fait le lien avec Artimus sur ce côté matériaux, modèle agrandi de pièces anatomiques. Par contre, Louis Ozou, lui, a travaillé pour que ses créations perdurent vraiment dans le temps.
Voilà. Donc, ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est présenter une exposition qui a lieu à l'Espace Culture actuellement, hein, autour de l'art, mais avec le supermarché. Enfin, voilà, cette exposition que vous pouvez voir, et notamment le midi, où il y a des visites guidées, etc. On va vous la présenter maintenant. On va passer un petit morceau de musique et on se retrouve tout de suite sur ce sujet-là. Un petit peu de musique et on y va. Voilà. Merci à vous toutes et tous. Et puis, belle continuation pour vos œuvres, pour le patrimoine et pour la belle maison de la ferme d'en haut. Très bonne journée.
Merci.
Merci. Merci.